messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir, toi qui écoutes Radio Canu. Eh ben, il est 22h, l'heure de revenir au direct avec la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Et ce soir, dans les studios, nous avons Clara, la technique.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous avons Fab aussi.
Bonsoir Jean-Yves, ça va?
Bonsoir, ça va très bien et toi? Et nous avons aussi des invités. Alors, on fait un petit tour de table vite fait avec le prénom et on fera des présentations plus en profondeur tout à l'heure. Vas-y, je laisse te présenter.
Eh bien, bonsoir, moi c'est Damien.
Bonsoir.
Bonsoir, moi c'est Bastien.
Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà un groupe de soutien?
Bonsoir, Alexandra.
Bonsoir, Alexandra. Et le croquis-man, il veut pas dire bonsoir? Oui, parce que dans les studios, il y a quelqu'un qui est en train de faire des croquis. Il a dit son prénom?
Non. Il a dit bonsoir.
Bonsoir. Alors, avant de parler plus longuement avec nos invités autour de la BD des rues de Lyon, et ben un petit rappel quand même comment nous joindre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous envoyer un mail pour nous écrire, vous écrivez à la causerie canu, tout attaché en minuscule, lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez écouter les podcasts, tout ça, ça se passe sur le blog de l'émission, c'est à blogs. Avec un S.
Avec un S.
Ouais, on l'appuie à chaque fois, c'est chiant, mais c'est comme ça. Alors, blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez La Causerie Radio Canu, vous devriez facilement tomber sur nous. Et vous retrouvez évidemment aussi tous ces podcasts sur différentes plateformes de baladodiffusion. Quand même, à dire.
C'est beau.
Quand même, dire Fabien. Et je crois que attends, est-ce que j'ai tout dit? Et on est ici sur un réseau socio-commercial de marque Z qui s'appelle Facebook. Voilà. Et vous tapez La Causerie Radio Canu et pareil, on y est aussi. Et c'est évidemment à chaque fois, c'est juste les podcasts qu'on poste. Hein.
Ouais,
voilà. Si vous voulez laisser des commentaires, c'est sur les blogs parce que ça appartient à Radio Canu et à personne d'autre. Et personne ne se fait d'argent dessus.
Et en plus, on prend pas vos données personnelles.
Aussi.
Accessoirement parlant.
C'est pas rien.
C'est plutôt pas mal, hein.
Et oui, alors. Oh, Clara, silencieuse, mais toujours là pour filer un coup de main. Et on fait quand même un coucou et un bisou à un certain Mathieu, qui aurait dû être là ce soir, mais qui n'est pas là.
Mathieu R.
Mathieu R. Non, Mathieu Rebière, évidemment. Enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, on l'a déjà reçu à l'émission. Il aurait dû être en compagnie de nos invités, mais c'est pas le cas. Parce que la vie fait que des fois, bah, y a des contretemps. Et ben voilà, j'ai fait les présentations,
c'est ça.
On y est, on
alors
part,
on va
c'est
y
parti.
Aller. Et ben du coup, merci à vous d'être venus ce soir, en tout cas, parce que bon, il est tard, il est bon, dimanche, il fait froid, mais vous êtes quand même là, donc on est content. Mais on va commencer déjà par vous présenter individuellement, savoir un peu qui vous êtes. Alors juste quand même dire aux auditrices et auditeurs, comme le disait Jean-Yves, qu'on va parler ce soir de deux numéros des rues de Lyon, celui du mois de janvier et celui du mois de février. On rentrera dans le sujet un petit peu plus tard dans l'émission. Mais du coup, bah, on va commencer ce tour de table. Et puis, on commence par toi, Alexandra. Du coup, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu?
Bonsoir. alors, en quelques mots. Donc, je suis...
C'est mieux.
Oui, rapidement.
À la radio, les mots, ça marche vachement mieux qu'ailleurs. Bah, ouais.
Tu peux pas faire de croquis. Donc moi, je suis lyonnaise et j'ai fait mes études à Émile Cole après le bac parce que je voulais faire du dessin. Et voilà, j'ai été diplômée en illustration. Au bout d'un moment, je suis partie à Bruxelles quand j'en ai marre de zoner toute seule chez moi. J'ai fait 6 ans là-bas, j'ai repris des études en typo et communication graphique. J'ai découvert plein de trucs autour des méthodes, des techniques d'impression, de la gravure et de la composition en plomb manuel, comme on faisait avant l'ordinateur et Apple. Et je suis revenue à Lyon il y a 10 ans et j'ai rejoint l'épicerie séquentielle où j'ai retrouvé des camarades, des copains et de la BD, donc c'était assez chouette.
Eh bien, on continue dans l'ordre de la table.
Allons-y.
À toi.
Eh ben,
Bastien.
Bastien, c'est ça, c'est mon nom. C'est un petit peu le. Je suis aussi passé par l'école Émile Cole, qui n'y est pas passé.
Moi.
qui n'y est pas passé. Dans le milieu des dessinateurs.
Ah,
lyonnais.
Oui, d'accord.
Je finis ma phrase. Voilà, où j'ai appris un peu tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Et d'ailleurs, je les salue bien bas, si jamais il y en a qui nous écoutent chez les responsables de cette école.
Il faut que tu arrêtes de toucher ton micro, je te le dis en direct.
Oui, ça, je pense que je vais avoir des tics.
Ça queen.
Ah, ça queen. Bon, bah si, ça fait queener, alors on va arrêter. Et du coup, j'ai fait un détour par la peinture murale. Donc voilà, formation académique en dessin, un détour par la peinture murale, et puis j'ai fini par revenir après main détour, main de réflexion, par mes premiers amours, que sont la bande dessinée, et je n'en partirai plus.
Et quand tu dis peinture murale, tu faisais pas les façades, c'était la peinture sur...
Non, c'est vraiment sur les façades.
D'accord.
Voilà, notamment avec Cité Création, ouais. qui fait l'essentiel.
Donc les fameuses fresques.
Bon, voilà, et Cité Création et l'école Émile Cole avaient co-créé en commun.
D'accord.
Une école qui a duré 5 années, si je ne me trompe pas, et voilà, qui permettait, dans la lignée de l'apprentissage d'Émile Cole, de partir sur de la peinture murale.
Ok, bah cool.
Très belle découverte, mais voilà. Mais moi, c'était la narration, mon truc.
Ah oui, puis il fait froid dehors en plus.
Et il fait froid dehors.
Et donc du coup, Damien.
Oui.
Eh bien, c'est à toi.
Oui. Rebonsoir. Donc Damien, moi je suis, je travaille dans le milieu audiovisuel à la base depuis, on va dire une 15aine d'années. Je ne suis pas passé par Émile Cole. Je suis passé...
Bravo. On en a trouvé un.
Je suis passé par l'ESEC, qui est une école de cinéma à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé sur des tournages de longs métrages, de séries télé, de téléfilms, pas mal de choses, des documentaires. Et le but, c'était quand même de faire la création et de ne pas travailler pour les autres. Et j'ai décidé de monter ma propre structure de production, si je peux la citer.
Ah, tu peux.
Faire un petit peu de pub. Triomphe Production. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que je suis indépendant et que je travaille dans le milieu audiovisuel de manière générale. Je fais la télévision, du documentaire, pas mal de choses. On a fait du podcast aussi. Et comme vous vous doutez, je fais aussi de la bande dessinée. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille dans la bande dessinée en parallèle, et moi je suis scénariste et j'ai travaillé sur plusieurs projets, dont les Rues de Lyon dont on va vous parler ce soir.
Et bien justement, comme on va parler des Rues de Lyon, qui veut présenter l'épicerie séquentielle?
Ok, parce que je suis...
Il se balance, c'est toi qui le fais, ok.
On va dire d'ok, parce que je suis la plus... Ça fait le plus longtemps des trois que je suis à l'asso. Donc en gros, si je fais vite fait l'historique, sachant que j'étais pas là, hein, l'asso a été monté en 2004. L'idée, c'est qu'on est énormément de dessinateurs et surtout de BD sur Lyon, parce qu'il y a Émile Cole, parce qu'il y a plein d'écoles, donc on est très nombreux. Et on travaille ou chez soi tout seul ou en atelier, donc dès qu'on se met ensemble et qu'on se fédère, c'est déjà plus sympa, on a plus d'infos, on est plus fort aussi, puisqu'on est toujours tout seul dans notre coin, en sachant pas trop comment marchent les choses, et on est toujours, dans les rapports, évidemment toujours pareil, hein, de puissance entre éditeur-auteur, on n'a jamais le dernier mot, donc se remettre ensemble, c'est vraiment super important. Et en 2015, donc je ne sais pas comment ça s'est passé, mais bon, il y avait ce petit groupe, ils travaillaient ensemble, l'asso a été monté et ils se sont lancés dans l'édition. Donc c'est le moment où il y a à la fois, je pense, les MOOC avec la revue 21 en 2008, où la BD prend une autre forme, on est dans le reportage, dans le documentaire, et elle va dans d'autres sujets, elle est un peu partout maintenant. Et la revue dessinée en 2015 aussi, je crois, donc 2013. Donc les Rues de Lyon, c'est 2015. Le projet a été monté. Au début, il y en avait 6 qui étaient prêts. Ça a été, il y a eu un crowdfunding pour lancer le truc. Il y avait 6 numéros d'un coup. Et étant donné que ça a fonctionné, ça fait 9 ans qu'on est là, en fait. Et le principe, c'est de la BD historique raconté à la sauce de l'auteur, donc c'est hyper varié. C'est uniquement 12 pages, donc c'est le côté petite revue, pas très cher. Aussi bien pour les auteurs, c'est plus cool à faire que pour les lecteurs. Donc c'est un rendez-vous mensuel avec le principe des anciennes revues du 19e, un peu ce côté journal et répétitif. Avec le côté que c'est pas de l'info chaude, forcément. Il y a des fois des sujets correspondent à l'actualité, mais c'est. Voilà. Donc c'est pas périmable. Donc on édite toujours les premiers numéros. Donc voilà, c'est de la BD suivie, mais sous forme de revue.
Ok.
Et on arrive bientôt historique. Au centième, quand même, numéro. Donc là, voilà, c'est un numéro par mois, c'est une sacrée entreprise.
Vas-y.
Alors, je vais juste rajouter
sur le micro. C'est le plus important.
Non, c'était pour juste préciser qu'à la base, c'était le principe de avoir quelque chose en auto-édition et local, et que chaque numéro fait 3 euros, et que sur les 3 euros, il y a 1 euro qui va donc aux frais de fonctionnement de l'association, 1 euro qui va aux libraires, en tout cas ceux qui vendent, et 1 euro qui va aux auteurs, ce qui nous fait un tiers des ventes sur chaque numéro. Donc, au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir. Un public, certains, ça commence à devenir intéressant. Et puis l'aspect local est vraiment, je trouve vraiment bien, parce que d'un coup vous êtes pas en train. Alors moi j'adore la BD de fiction et j'ai plus de projets que je ne pourrais en faire en 10 vies, mais au moins vous êtes dans quelque chose qui parle directement aux gens. Et ça c'est bien, c'est très important.
Et ben.
Et juste pour rappeler le petit côté militant par rapport à ce que tu disais, justement, c'est qu'on s'appelle l'épicerie séquentielle parce que c'est du circuit court. On fait tout nous-mêmes, on livre à domicile, enfin directement les librairies. Et séquentielle parce que la BD, c'est de l'art séquentiel. Et donc, ouais, le côté, c'est qu'on a 33% sur les ventes. Et en édition classique, on a 10%. C'est possible parce qu'on est tous bénévoles.
Oui.
Mais c'est sympa. C'est une aventure collective.
Mais c'est bien de le rappeler, oui, parce que ça vous rapproche un peu de Radio Canu, même si nous, on touche rien. C'est la grosse différence.
Entre pauvres, on s'en prend.
Alors, vu qu'on va bientôt faire une petite coupure, quand même, ce que je propose, c'est quand même d'annoncer les sujets en fait, des deux rues de Lyon dont on va causer ce soir. Alors, il y a celui de janvier, donc, qui est réalisé par Alex au dessin. Au scénario aussi.
En grande partie, oui.
En grande partie, et un peu d'aide de celui qui n'est pas là ce soir. Donc on peut balancer à mort sur lui, Mathieu Rebière. Et donc c'est au sujet de...
Donc c'est les imprimeurs pendant la résistance qui imprimaient des journaux clandestins.
Voilà. Et le deuxième rue de Lyon, donc ce sera celui de février. Donc c'est le travail de Bastien...
Au dessin.
Au dessin, oui, pardon. Et de Damien au scénario.
Tout à fait.
Et le sujet est donc...
René Lénaud, poète résistant. Donc c'était un journaliste, poète et résistant qui travaillait notamment au Progrès et après dans pas mal de journaux résistants et qui était un ami intime d'Albert Camus.
Voilà. Et ben on fait une coupure musicale.
Avec un titre qui va parler aussi de ça.
C'est ça. Et on se retrouve après.
Mon entrée en résistance, c'est le souci d'informer les gens. tracts et c'est comme ça que nous avons commencé. Des petits tracts.
Oui, il faut que j'y aille, c'est moi, je l'ai dit. Alors donc, vous êtes bien à la causerie sur le 102.2 et sur RadioCanu.org, et c'était Dub à Mix avec les petits tracts. Et voilà, c'est un titre qu'on a choisi, nous, l'émission, voilà, pour nos, pas pour nos invités, mais les prochains, c'est les, nos invités qui l'ont choisi. C'est pas dans l'ordre ce que j'ai dit, mais c'était pas mal.
Ouais, c'était super, merci. Non, en fait, on a fait ce lien-là, en tout cas avec le titre de Dub à Mix, parce qu'il y a effectivement cette notion de papier, de la résistance et de l'écrit et de l'importance aussi, bah, justement, de ces petits tracts dans une résistance. Et ça amène en fait justement au sujet de vos deux BD, parce qu'il y a, une notion, il y a ce lien de la résistance. Et la question qu'on peut déjà se poser, c'est bah, pourquoi en fait ce sujet-là, bah, toi déjà Alex, pour le numéro de janvier, on le rappelle, sur les imprimeurs dans la résistance, pourquoi tu t'es, pourquoi ce sujet?
Donc déjà, c'est juste que j'adore, bah, comme vous imaginez, tout ce qui concerne l'imprimerie. J'ai toujours été fascinée par ce côté de mettre des idées ou, enfin, des idées en de manière concrète, en mots en tout cas, et en typo, pour que ça puisse circuler. Et puis, avec le côté, il y avait aussi, comme disait, ou comme dira Damien, le côté, on est dans une asso, on fait des journaux de BD, alors c'est assez sympa de parler de gens qui faisaient des journaux clandestins à cette époque-là. Et si ça, enfin, pour remonter un peu dans le temps, en fait, ça a commencé en janvier 2017, où j'étais aux conférences des amis du musée de l'imprimerie. J'y vais de temps en temps, et là, il y avait Régis Lemaire, qui est historien au CHRD, au Centre d'Histoire et de la Résistance et de la Déportation, qui faisait une conférence pour présenter son livre sur les imprimeurs résistants sur la région de Lyon entre 40 et 44. Donc j'étais présente, j'ai pris plein de notes, j'ai trouvé ça super intéressant, et j'étais depuis peu à l'épicerie, et je me suis dit que ça ferait quand même un sujet de BD qui claquait bien, parce qu'on connaît jamais comment se passent les choses, les moyens de production sont souvent cachés et pas mis en image, enfin pas mis en lumière, et c'était vraiment intéressant, donc j'avais une super source avec plein d'anecdotes.
Ce qui est bien pour créer une BD. Enfin, non, mais c'est vrai.
Oui, avoir un sujet qui nous porte.
Sujet qui te porte, ouais. Et en même temps aussi avoir les sources qui te permettent.
Ouais, exactement.
Ouais. Et bah, du coup, on va poser la même question pour tout ce qui entoure l'ENO.
Oui, moi c'est pareil, donc comme disait Alex, effectivement j'aimais bien l'idée de la mise en abîme de l'écriture et de l'imprimerie par rapport aux rues de Lyon, même si bien sûr on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais René Leno, pourquoi c'est vrai que je passais souvent rue René Leno, je me suis toujours demandé qui était ce monsieur. Et puis je cherchais à faire un thème voilà, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui m'intéressait, en particulier la résistance. Et c'est vrai qu'à Lyon, il y a, voilà, historiquement c'est très fort. Et j'aimais bien justement, donc, comme je disais, cette mise en abîme. Et puis en fait j'ai découvert que René Leno était ami d'Albert Camus, que Albert Camus avait écrit une préface sur les poésies posthumes de René Leno. Et voilà, en fait ça m'a inspiré toute cette histoire et j'ai pu raconter en 10 pages un petit peu l'histoire de cet homme-là. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir mettre de la fiction à l'intérieur du documentaire. Donc évidemment, on est sur un format un petit peu hybride où on est sur du documentaire avec voilà, des récitatifs qui vont expliquer les choses aux gens. Mais en même temps, on a plusieurs planches qui sont sous forme de... Enfin, qui sont romancées entre guillemets, mais qui sont voilà, découpées avec de la mise en scène, etc. Et j'aimais bien ce mélange un petit peu fiction, documentaire et j'aimais beaucoup le principe de parler d'un journaliste résistant, un poète résistant, et voilà, c'était tout ce contexte-là qui m'intéressait.
Et du coup, toi, Bastien, t'arrives comment sur ce projet ?
Bien après. Non, quand je suis arrivé, Damien avait déjà le scénario complètement terminé, construit, validé, etc. Donc on s'était vu au festival de Lyon BD l'année dernière maintenant,
hein, c'est, hein. 2022,
le monde d'avant. Et du coup, bah, le sujet, on a discuté, puis le sujet forcément intéresse rapidement, à partir du moment où vous touchez un résistant, période de l'occupation. Et puis après, bah, comment on rentre dedans, bah, on reprend. Moi, je sais que je suis allé tout de suite au musée de la Résistance pour essayer de se remettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis, bon, après, un élément en entraîne un autre. Et les documentaires, moi, m'ont permis de... Alors, j'ai un truc, c'est qu'à chaque fois que je travaille sur la Seconde Guerre mondiale d'une manière ou d'une autre, je ressors toujours le même documentaire, qui est... je commence par ça, qui est le documentaire Apocalypse sur la Seconde Guerre mondiale de Isabelle Clarke et Daniel Costel, avec la voix de Mathieu Kassovitz, extraordinaire, une voix formidable, et puis la composition musicale derrière qui te donne un truc épiquissime. Et du coup, ça permet de manière extraordinaire de se remettre dans l'ambiance de fin du monde général, et puis après, voilà, de fil en aiguille. C'est vrai que je passais mon temps à soit apprendre un peu plus sur la résistance, enfin élargir systématiquement, parce que de toute façon Damien avait le poste de commandement du scénario, donc je risquais pas de me perdre. Et puis après, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être porté parce que je dessinais, quoi. Et juste pour un petit exemple, c'est qu'effectivement, alors peut-être pas spoiler, mais du coup sur on va dire une partie importante sur la fin de l'histoire, voilà, sur cet événement qui en 44, effectivement, ça chauffait pour les Allemands, donc ils se vengeaient un petit peu. Et d'être porté sur le parcours. C'est difficile de parler sans spoiler.
Tu peux y aller, c'est
René Leno est mort assassiné, voilà. Ouais,
bah oui. Et à 34 ans.
À 34 ouais. ans, voilà, et fusillé. Bah, comme beaucoup d'autres courageux comme lui, fusillé à l'arrache au fond d'un champ, dans le dos. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir s'immerger, parce que dans le dessin, on met beaucoup de temps pour dessiner. Ce qu'on lit en 30 secondes, bah, moi, par exemple, ça m'a pris 3 mois de réalisation, alors pas mis bout à bout, mais quasiment. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on finit par ressentir un peu dans ses tripes le moment de cette scène, notamment, qui m'a vraiment resté assez... j'ai beaucoup aimé dessiner. Et voilà, je vais m'arrêter là. Parce que
oui, et d'ailleurs, juste pour reprendre sur cette scène-là, c'est en faisant des recherches, j'ai découvert le témoignage de Jacques Toinet, qui était à cette fusillade et qui a survécu. Oui, c'est ça. Et en fait, toute cette scène a été racontée à la police par Jacques Toinet, et justement, c'est pour ça qu'elle est aussi forte. Et même le témoignage est fort, et on essaie de reconstituer un petit peu ça avec nos mots, avec nos images.
Oui, parce qu'il survit miraculeusement, c'est ça, et criblé de balles, je sais pas combien, et d'ailleurs, en tout cas, il a pris des balles dans le corps, et il se met à ramper jusqu'à la ferme voisine, où les gens qui sont là le soignent.
Et, ils sont résistants d'ailleurs.
Voilà, ils sont résistants, tu vois, je sais pas. Et dès qu'il est soigné, hop, il repart directos en résistance, voilà. C'était une autre époque.
C'est oui.
Pardon, mais je me demandais, parce que bon, il est pas là, on va quand même parler encore un peu de lui. Oui. Mais toi, parce que Alex, toi, t'as bossé avec Mathieu Rebière sur ce tome-là.
Oui.
Finalement, je pense qu'il a pas été d'une grande aide, quoi.
C'est pas sympa, déjà, je m'en veux un peu.
Non, je déconne. Non, non.
Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai déjà fait deux Rue de Lyon, un sur le Vinatier et un sur les MJC. Et j'étais toute seule à chaque fois, donc je fais ce que je veux et c'est cool. Sauf que je suis pas du tout scénariste, donc c'était extrêmement difficile de mettre tout ce que je savais en 10 pages. Au niveau de la narration, c'est pas non plus complètement dingue, donc j'avais demandé de l'aide à chaque fois de collègues de l'épicerie. Donc pour le dernier, je m'étais dit, vas-y, cette fois, t'es un scénariste. J'étais beaucoup mieux. Ça va m'aider à tenir mes délais. Ça n'a pas trop marché. Et puis en plus, Mathieu, bah déjà, c'est une personne que j'aime bien. Il a fait plein de numéros, aussi bien au dessin qu'au scénario. Et il est prof d'histoire géo. Il maîtrise à fond la résistance. Il a fait su sur Jean Moulin. Je me suis dit, vas-y, là, c'est l'autoroute. C'est super. J'ai une personne qui va super gérer la période. Après, je dis, c'est pas sympa parce qu'il n'était pas scénariste au sens où il arrivait avec son histoire. Et moi, je me suis calé le dessin. J'avais mon idée. J'avais à peu près ce que je voulais raconter. J'avais mes sources. Je suis arrivée un peu. La fleur au fusil, je lui ai tout balancé, je lui ai dit vas-y, j'aurai bien de l'aide. Donc on a bossé ensemble, c'était vraiment très chouette. Mais je lui ai laissé peu de place, quoi. Voilà. Mais je le remercie beaucoup. C'était vraiment très chouette.
Et une petite question, dessinateur, dessinatrice, justement, vous bossez comment en fait est-ce que vous bossez sur tablette
La grande question. Tradi ou numérique?
Ouais, mais alors c'est pas du tout pour hiérarchiser, mais je trouve
c'est
toujours.
Non, mais chez nous c'est un grand sujet.
Bah, on est un peu des anciens. Moi j'aime bien la plume, l'encre, parce que pour le fait que t'es dans ce que tu fais, t'es vraiment dedans, il y a le côté prise de risque un peu, parce que quand tu loupes, ben, c'est loupé, tu refais. Ouais, c'est pour ça. Et puis l'ordi, ça, on s'en sert évidemment, hein, que ce soit pour ou la mise en couleur, mettre le texte à la fin, faire les bulles, faire des corrections. On passe toujours par l'ordi quand il faut corriger tes dessins. Mais je suis vraiment attachée à ça, d'une part. Et en plus, je suis juste plus rapide, tout simplement. Quand tu fais un Rue de Lyon, t'as 2-3 mois, en plus d'autres choses. Tu commences pas à te lancer dans de la peinture, en des trucs que tu maîtrises pas. Même si à chaque fois, on se dit, on va changer un peu de style, on va essayer de bosser différemment. Mais on va quand même à ce qu'on fait le mieux et le plus vite.
Puis l'horreur, c'est que quand tu passes en numérique, tu peux revenir en permanence sur ce que tu viens de faire. Donc en fait, c'est infini et tu cherches la perfection toujours plus. Puis tu as un truc terrible, il y a une option qui s'appelle le zoom. Et tu commences à zoomer et en fait, tu t'arrêtes plus de nettoyer, de préciser, et tu deviens fou après. Et tu comprends pas pourquoi tu as fait 3 mois sur une seule case. mais plus sérieusement, je suis comme Alex, c'est-à-dire que je commence toujours en tradi, sur papier, parce que je sais pas, t'as le truc sous la main, t'as le format tout de suite. En numérique, il faut faire tes réglages. Est-ce que t'as bien choisi la 4CM, JN, je sais pas quoi, ça m'énerve. Et on voit, t'as tout ton truc et t'as ton dessin sous la main. Et voilà, l'accessibilité est plus simple. Et puis après, par contre, le numérique, effectivement, on rigole, mais c'est hyper pratique.
Ah oui, non, mais enfin là, on n'est pas en train de défendre.
Non, c'est moi qui. Non, mais je dis, en fait, je crois que je suis parti dans un monologue tout seul dans ma tête. Je revois l'atelier avec les collègues s'ils écoutent. Effectivement, c'est un sujet, on en parle tout le temps. Oui, parce que dans les métiers, je pense que c'est ça dans tous les métiers, tu finis par parler technique pendant des heures. Mm-hmm. Et vu de l'extérieur, au bout d'un moment, c'est complètement inintéressant.
Non, mais c'est. Pour faire un parallèle qu'on avait déjà fait et que je peux refaire là, c'est comme pour nous à la radio. C'est-à-dire que maintenant, on travaille nous aussi en numérique, beaucoup plus qu'avant, et on découpe plus les bandes magnétiques pour faire les montages. Non, on a arrêté, c'était chiant. Non, mais voilà, mais ça fait, c'est des outils. Après, ça empêche pas l'humain qui est derrière et ça empêche pas l'expression artistique non plus. Mais après, c'est des outils différents, quoi.
Mais du coup, pour être plus précis sur la réponse, en gros, tu gagnes, alors là je cite des auteurs de BD que j'avais écouté il y a pas longtemps en interview, en gros tu gagnes au minimum, tu multiplies ton temps de travail par deux si tu travailles en numérique, évidemment si tu maîtrises un minimum les...
Tu multiplies ton temps de travail par deux?
Non, pardon, c'est l'inverse. C'est 22 heures, les amis, je gagne. Vous avez compris. Non, divise le temps de travail par deux au minimum. Et
c'est quand même énorme quand même.
Au bout d'un moment, t'as vraiment la question de la rentabilité qui vient. Là, si on s'élève à des niveaux de publication plus élevés.
Ok. Tu veux faire une petite coupure musicale? Tu veux?
Mais
bon,
oui.
Alors on va faire une petite coupure musicale. On retrouve nos invités tout à l'heure, juste après la musique, et on continue de causer de ces deux numéros des Rues de Lyon autour des imprimeurs résistants et de René Lénaud. A tout de suite. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love
feels heavy on my mind.
Let's get them dollars. Let's get this money.
Keep my mind on my mind on my money, money on my mind. I got my finger on the trigger, staying on the grind. And when I wake up in the morning, I got to hit a lick. Saw the 2003 Navi on sprees with a kick. Soon as my eyes see the sunshine, my thoughts is juking the block and dodging the one time. Peep how we moving and rocking with pounds of dope before I double my shit. I can serve 16 ounces for six and get back 96. A killer for the skriller, nigga. Dust I be stalking, I got to get them bigger, bigger. Fuck what you talking, I represent the niggas balling with jewelry full of sickles. Down to the niggas chasing millionaire dreams, serving niggas. And I know one day I gon' come up, and when you see me, don't hate when I roll up. You pay whether you legit when you slang or tipping off cane. Until I take a dip in the range, I'm flipping them things. Gotta get that money, man.
Just got paid, stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day. Just got paid, stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day.
Definition is a hustler for scratch. You serve a motherfucker, you serve him for that. I'm making money off of verses when I spit them on tracks. And if I ain't selling no records, I'm serving them packs. I got a clip full of hollows, money making's my motto. Send me auto with my blows in a bottle till I hit the lotto. With dreams I own a new record label flipping words. My nigga flipping builders better than he was flipping birds. I got the mentality and the motive, I'm on the mission. For the money you can get it too, it's all about your ambition. Play your position, provide the plans and follow procedures. And it's 600 bunnet with a pocket for the hundreds and visas. Love when I get that dust, hit him up. Recop, then I get back up. Love when I get that gig. Get a crib, get a car when the grip stack up. It's still in the evening if I'm sleeping paper proper. Soon as I get up, it's just another day, another dollar. I gotta get that money, man.
Lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way.
That's ballin' rollin' jacks. And love for the thug niggas who get it on the app. Love for those who can make a meal and sit back and laugh. And love for the fine strippers who get it poppin' ass. Love for the single parents that's working through the struggle. Love for those who gotta make a living, moving muscle. Love for those who gotta watch the haters rolling bubbles, causing trouble every time a young brother try to hustle. And if I can't legally make a knot, then I gotta get right back on the block. And if it ain't no work, we do a stick up and whip up a concoction. Might leave your face down in the dirt because hurting's not an option. Gotta get that money, man.
Just got paid, stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day. Just got paid, stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes.
Non, tu n'es pas sur la côte est de la Californie, au niveau de la Californie. Tu es bien sur Radio Canu au 102.2 sur radiocanu.org. Et on a des invités ce soir pour deux numéros des rues de Lyon. Et bah, ils ont choisi, enfin, plutôt, plus précisément, tu as choisi, Damien, ce titre et pourquoi ?
Oui, alors ce titre, c'est Twista, Sunshine, Lovely Day. Déjà, c'est un son qui me rappelle énormément de choses, de souvenirs. Voilà, je passe une petite dédicace à Jérôme, mon meilleur pote. C'était une période où je commençais à rêver d'écrire et de devenir professionnel dans ce milieu-là. Donc, ça me rappelle pas mal de choses. Et voilà, c'était une boucle qui se bouclait. Et surtout, ça me faisait aussi kiffer de passer un son comme ça à la radio, deuxième chose. Et troisième chose, c'est que j'aimais bien le bah voilà, Sunshine. On est dans quelque chose d'un petit peu plus posé, un petit peu plus ensoleillé. Voilà, et ça faisait du bien par rapport. On parle de résistance, on parle de choses assez, assez lourdes, assez sombres. Et voilà, j'aimais bien l'idée de passer ce son-là et ça fait plaisir.
Ben merci pour ce saut en arrière de quelques dizaines d'années.
Avec les voitures qui ont des pneus qui sautent. Bon, on va reprendre par rapport au. On va repartir sur ton numéro, Alexandra, sur celui qui est déjà sorti, donc qui est disponible.
En janvier.
Ouais, on va rappeler que les rues de Lyon, on peut les trouver un peu partout dans Lyon.
Oui,
voilà. Dans toutes les bonnes librairies.
Toutes les bonnes librairies.
Sur abonnement aussi.
Sur abonnement. Voilà. Et donc, du coup, moi, enfin, nous, plutôt, ce qui nous intéressait, c'était de se dire à quel moment, enfin, qu'est-ce que tu as découvert en. Parce qu'on a compris que tu avais envie de parler de l'édition, de la façon dont on faisait, et ça. Et qu'est-ce que tu as découvert en faisant ce numéro? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport au milieu des imprimeurs? Et surtout pendant la résistance, du coup.
Ah ouais, beaucoup de choses en fait.
Vous avez 4 heures.
Alors ça c'est bon. Le côté, bah déjà ouais, j'aime bien les imprimeurs, tout ce qui est imprimé. J'ai fait de la composition manuelle et j'ai vraiment adoré ça. Donc j'ai conscience des étapes qui sont nécessaires pour faire le moins de petits bouts de papier tout bête. Et ensuite quand j'ai mis ça en perspective avec les imprimeurs qui bossaient pour la résistance, qui imprimaient des journaux, là, je comprends un peu ce que c'est. C'est pour ça que je voulais vraiment expliquer dans la BD qu'est-ce que c'est de faire un journal, de composer avec des plombs à la main, le temps que c'est, combien c'est fastidieux. Qu'est-ce que c'est quand tu mets les conditions matérielles qui sont plus là, quand tout est interdit, quand t'as pas de matériel, quand tout est surveillé, il n'y a pas de papier, tout est contingenté. Donc là, tu te rends compte des difficultés hallucinantes pour des choses qui sont... Bah, y a un petit décalage entre, je sais pas, les faits hyper importants et... Les petites choses du quotidien, les premiers trucs, au début c'est des tracts, c'est des papillons. Et puis après c'est taper à la machine ou écrit à la main. Et après quand on veut une publication un peu plus importante, quand on a fini avec la Ronéo où il y en a, je sais pas, 300 exemplaires, on est obligé de passer par un journal et donc un imprimeur professionnel. Alors il y a tout plein d'histoires, mais bon, il faudra lire le bouquin de Régis Lemaire ou la BD. Parce que les résistants en groupe, enfin, chaque mouvement avait son imprimeur, allait trouver des gens qui étaient capables de les aider. Tous passaient la main, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne qui faisait un journal, c'était pas possible. Donc ils travaillaient tous pour plusieurs journaux. Et il y a aussi des histoires dingues. Donc les communistes de leur côté faisaient leur propre imprimerie. Et André Bollier a monté une imprimerie toute pièce, donc complètement secrète, pour le journal Combat et aussi imprimer d'autres choses. Et ce qui m'a marqué, c'est ce côté que j'ai toujours aimé en fait chez les imprimeurs, le côté solidarité. C'est une corporation, il y a eu les premières mutuelles en fait, il y a eu une entraide énorme. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, la première grève, ouais, ouais. La première grande grève de France, c'est le tri des imprimeurs en 1539, donc on a notre numéro 13 qui parlait de ça. Et le côté ouais, solidaire, que même quelles que soient leurs opinions politiques ou spirituelles, ils imprimaient à peu près tout, sauf des francs-maçons, anards qui ont monté leur propre journal. Et tout. Mais voilà, enfin, je suis assez d'accord, ils imprimaient vraiment tout, donc ça passait de main en main. Donc quand les hommes disparaissaient, quand il y avait les imprimeries étaient saccagées, les gens arrêtés, le journal continuait de sortir. Après, il y a un coup comme Eugène Ponce arrêté, je crois. Une semaine après, le journal ressortait parce qu'il était imprimé ailleurs.
C'est cet aspect-là qui t'a un peu, je ne vais pas dire fasciné, mais fasciné, ouais. Bon mot. C'est cette capacité finalement à mettre avant tout l'idée de produire, enfin de faire sortir.
Oui, que ça sorte coûte que coûte, ouais. Quelle que soit la situation.
Et justement, enfin, je trouve que c'est hyper bien foutu. Enfin, ce que tu donnes comme élément de compréhension, en fait, de ce que c'est l'imprimerie sous occupation, le prix du papier, le manque de papier, effectivement, monter une imprimerie en 3 jours, c'est. Et souvent, en fait, ça va être des gens qu'on aura laissés dans l'ombre d'une certaine manière, alors qu'ils ont un rôle aussi très important. En fait, il s'agit pas d'hiérarchiser les notions de résistance, mais et je trouve que c'est super bien rendu, et je pense qu'il y a aussi justement ton amour de l'édition, enfin de tout ça, qui finalement t'a amené justement peut-être à donner tous ces détails là parce que du fait que t'aimes ça, tu te rends compte de ce que c'est la difficulté d'eux, et que là c'est hyper bien rendu. Enfin vraiment, je vous invite vraiment à lire ce numéro de janvier. Mais si tu ris aussi,
mais
bien sûr. Mais
on n'en a pas encore parlé.
Non, mais justement, ça fait une transition parce que il y a cet aspect de la solidarité, du fait que les choses doivent être créées, elles doivent sortir, et on se passe les choses. Et après, il y a ceux qui créent, ceux qui écrivent. C'était le cas de Leno finalement, qui se retrouve lui pris dans ce flot historique comme plein de gens à l'époque. Et puis moi, on a eu la BD en avant-première. Bon, certes. Les couleurs n'étaient pas terminées.
C'était pas terrible, c'était un peu gâché.
Non, bon, on a eu. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la capacité dans ce numéro à montrer justement comment un homme s'accroche à ses convictions, mais aussi à sa création, mais aussi à la poésie. Et ça, c'est quand même quelque chose. Enfin, je trouve, quand on imagine la résistance, si on le fait un peu à l'américaine, on imagine que des grands costauds qui ont envie de buter tout le monde. Et en fait, on se rend compte que finalement, dans les résistants, il y avait aussi des gens qui étaient des gens qui créaient, qui faisaient, mais qui résistaient parce qu'ils avaient des convictions. Et qu'est-ce que tu as découvert, toi, justement, en grattant un peu sur l'histoire de Leno, que tu connaissais pas ou qui t'a surpris ou voilà.
Sur René Leno ou de manière générale
ça peut être sur Leno en lui-même, ouais. Ou plus largement hein.
Bah, déjà beaucoup de choses en fait, parce que c'est vrai que j'avais jamais creusé tout ça, et c'est pour ça que le numéro aussi de janvier est intéressant. On n'imagine pas ça avant de se lancer dans, enfin moi j'imaginais pas tout ça avant de me lancer dans mes recherches, et c'est vrai que Leno c'était un auteur, il avait besoin de créer. C'était voilà,
un artiste.
C'était un artiste, et je pense que c'était sa thérapie à lui. Voilà, lui, il venait d'une fratrie de 11 enfants, donc c'était le dernier. Il a toujours écrit des poèmes, des lettres, et c'est ce qu'on explique dans la BD. Il écrivait 7 à 8 lettres par jour pour sa famille. Enfin, c'est énorme. Quand il était soldat, dans les périodes voilà, où c'était plus calme et il n'était pas au front, Et ce que je trouve assez dingue, c'est justement ce mec est mort pour continuer à écrire. En fait, et voilà, que ça soit des poèmes, que ça soit dans le journalisme, voilà, il était au Progrès. Le Progrès, c'est s'aborder. Bah, il a continué dans les journaux résistants, notamment en Combat. Après, il a travaillé dans d'autres journaux. Et en fait, toute sa vie tourne autour de l'écriture parce que ses amis proches, c'est des hommes de lettres, donc Albert Camus justement. Et en fait, voilà, il a été au bout de ses convictions tout en allant voilà, au bout de sa passion, en fait. Et je trouve ça assez fort, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et au final, il reste pas grand-chose de René Leno en termes de création artistique. Il y a juste ce recueil de poésie posthume. Mais voilà, c'est assez fort toute la symbolique qu'il y a autour de ça. Et ouais, je trouve ça vraiment beau. Voilà, c'était il faisait sa propre thérapie, et en même temps il participait au combat général de la résistance. Et voilà, je trouvais ça vraiment très fort.
Et moi j'avais une question, c'est que dans la BD il y a beaucoup de dialogues, de dialogues.
De voix off.
Ouais, de voix off, hein, ouais. De description. Ben, je vais y arriver. C'est toi qui les as inventés, toutes pièces, ou est-ce que tu avais des choses qui existaient, qui t'ont permis de dire, bah, ça s'est vraiment passé comme ça, alors même si on peut résumer, voilà.
Ah, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs choses. Tout ce qui est vraiment dialogue pur, c'est quasiment que des dialogues que j'ai retrouvés dans des archives. Voilà, des archives de sa femme qui parle, des archives de témoignages, voilà, quasiment tout ça c'est des dialogues, enfin des vrais dialogues entre guillemets. Et ensuite tout ce qui est récitatif, description, il y a une partie qui est tirée de la préface écrite par Albert Camus, des poésies posthumes. Donc c'est vraiment Camus qui écrit et qui raconte l'histoire de son ami, et après c'est des choses que j'ai recueillies tout au long de mes recherches dans des émissions de radio, des mémoires, des journaux, voilà, j'ai fait un melting pot, de différentes choses, de dialogues, de vrais dialogues, de préfaces d'Albert Camus, et après d'infos que j'ai regroupées et que voilà, j'ai utilisé comme description pour la bande dessinée.
Et alors du coup, bah on va en venir, je vais glisser vers Bastien. Toi, quand il faut que tu mettes en image finalement tout ça, donc tu disais que tu t'es beaucoup imprégné de l'ambiance de l'époque, tout ça, mais alors, enfin, moi, on a eu la chance de la lire.
L'avant-première.
Il y a une volonté, alors c'est un choix que certains font et d'autres pas. Tu es assez proche d'un point de vue physique des personnes. Je veux dire, alors je vais le dire, moi, c'est un des plus beaux portraits d'Albert Camus que j'ai vu, par exemple. Voilà, non mais
de profil, c'est plus
de profil. Ouais, ouais, non mais je le dis, mais parce qu'il est, il est extrêmement réaliste dans le sens où voilà, il saute aux yeux, comme on dit. Et Leno, c'est pareil. Enfin, il y a quand même quelque chose de très intéressant. Comment t'as travaillé ça en fait? Tu t'es documenté,
Ah oui, quand c'est des portraits, on a une banque de données, une banque de données qui s'appelle Google. voilà. Et surtout pour du Camus, c'est pas compliqué. Même pas besoin de taper le nom en entier.
L'ENO, c'est plus compliqué parce que l'ENO.
Ça fait partie des recherches de documentation. Donc Damien avait déjà pas mal de documentation à me passer, mais de manière classique. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs sur le travail entre un scénariste qui est habitué au texte et quand on passe à un dessinateur qui lui est habitué à raconter en images. Donc ça commence par le fait que du coup tu avais beaucoup de documentation à me donner, donc texte qui était indispensable. Et puis après moi tout de suite j'ai commencé à regarder bon à quoi il ressemble. Bon ça c'était le plus facile. On avait des photos de bonne qualité.
Il n'y en a pas beaucoup mais
l'essentiel c'est qu'elles soient
tu peux sortir les traits.
Je pense notamment à cette dame du centre de documentation du CHRD qui nous a envoyé de très bonne qualité effectivement des photos. Et donc à partir de là c'est le travail du dessinateur qui commence, on essaie de mettre ça en scène. L'avantage, c'est que c'est pas pour faire du cirage de pompe, mais je trouve vraiment que le scénario était très agréable à illustrer parce qu'il y a les défauts classiques, hein, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous empêcher au début d'avoir une. Il faut bien bourrer en texte parce qu'il faut expliquer, mais là, ce qui était bien, c'est que vous aviez des grandes planches. Si on compte même la première page, il y a presque sur 10 pages, donc une planche c'est une page, un point, et il y a 3 planches complètes où il n'y a qu'une seule case, et donc vous avez une espèce d'aération du texte, du discours, et puis à la fin, effectivement, les 3-4 dernières planches, ou avant-dernières, sont il y a très peu de texte, très peu de dialogue. Et alors c'est vrai que j'ai insisté aussi un petit peu parce qu'il y a la BD, c'est l'image prime. Je dis pas ça parce que je suis dessinateur.
Oui, aussi
complètement. Non mais c'est un art de l'épure, la BD. Et en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on peut raconter une BD sans texte, mais on peut le faire sans image. Et il vaut mieux souvent montrer, et notamment la scène de la fusillade et tout ce qui amène était très bien. Et voilà, je trouve qu'on a un bon aller-retour entre scénario et dessin. Et ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai complètement divergé par rapport à la question.
Oui, mais ça fait plaisir. J'ai plein de compliments. Donc.
C'est ça. Alors, je peux continuer.
Pardon, je te coupe dans ton monologue.
C'est bon. Attends, je continue. Je suis
bien. Non, et ce ping-pong, justement, entre vous deux, entre le scénariste et le dessinateur, il dure combien de temps, en fait
Jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ah ouais. Donc, c'est pas fini.
Non, c'est jusqu'à ce que ça soit. C'est vrai qu'une fois qu'il me remet le scénario. Déjà on discute un bon moment pour être sûr de bien se comprendre. Alors il y a une première étape à partir du moment où on reçoit le scénario, c'est qu'on fait un storyboard. Le storyboard c'est la BD, on va découper, c'est-à-dire case par case, avec un dessin grossier qui permet de placer les textes.
C'est là où finalement on choisit de qu'est-ce qu'on veut mettre en image,
comment on raconte l'histoire et est-ce qu'on la raconte de la même façon en fait.
Comment on met en scène et du coup à partir de là, comme on voit la place de l'image. Moi j'arrive avec mes gros sabots, puis je dis alors là tu vas virer ce texte, ça, tu vois, et puis lui repasser derrière, dit alors tu vas te calmer tout de suite, parce que ça par exemple c'est authentique, ça peut être intéressant parce que, etc. Et donc il y a des allers-retours permanents, et puis en général une fois qu'après le storyboard ou les différentes versions du storyboard sont validées, après je passe au dessin, et puis l'essentiel, je pense que plus on se voit de toute façon, on pourra en discuter quelles que soient les étapes, et plus on peut avoir quelque chose de où on trouve un terrain d'entente commun, mais là c'était très facile. C'était bien.
Et donc, ça dure à peu près combien de temps ce ping-pong, justement, cette construction entre le moment où...
Et il n'a pas fini d'ancrer encore. J'imagine, il n'a pas fini.
Ouais, c'est vrai.
J'ai pas fini la première page que j'ai commencé il y a 3 mois.
Je sais pas, ça dure... C'est dur à quantifier, mais... Déjà, le passage de relais se fait vraiment à partir du storyboard, mais c'est plusieurs semaines, mois...
En fait, à partir de Lyon BD où on s'est vu, donc c'est juin. Ouais. À partir de là, on a laissé passer les vacances d'été et on s'est remis en septembre. Et tout de suite, storyboard, en attente de validation. Et moi, je crois que je me suis mis directement novembre. Novembre-décembre. Mmh. Et là, mise en couleur, etc. Etc. Okay.
Et elle arrive début février.
Et là, je termine vendredi.
Voilà, début février quand même.
Début février. Voilà. Parce qu'on a toujours une marge très importante entre le moment où on termine et le moment où on s'est imprimé.
Et du coup, Alexandra, moi j'avais une question sur. Parce que là ils s'appuyaient pour leur numéro sur un personnage historique. Mais toi, en fait, il y a de la création finalement. Parce que. Les situations que tu décris, alors est-ce que tu les as fictionnées ou est-ce que tu as recollé avec. Tu as mélangé du réel, comme on dit, pour créer un docu-fiction ?
Bah, en fait, on prend des histoires réelles et après, c'est comment on les agence. Donc, c'est là où on peut se permettre un peu des libertés, même si c'est juste au niveau des dettes. Mais moi, le gros problème, donc, le bouquin de Régis Lemaire, c'était tous les imprimeurs. Ils racontaient à chaque fois ce qui s'était passé pendant leur période de résistance. Et donc, j'ai pris certaines. On s'est concentré sur Jeanne Ponce, en fait, qui était vraiment un personnage super intéressant, qui a travaillé pour énormément de journaux, qui faisait un peu pilier, un peu pivot central. Donc c'était principalement autour de lui. Moi, j'imaginais une sorte de petite livreuse de journaux. Parce que ma toute première idée, c'était qu'on la suivait sur une tournée et on en profitait pour se promener dans tous les endroits de Lyon où il y avait des imprimeurs. Ça ne marchait pas trop. Donc après, on est resté sur ce personnage. Donc qui est livreuse pour les journaux que Ponce imprime, ce qui permettait de la faire circuler, d'aller de journaux en journaux.
Ce qui est ta partie fictionnelle.
Ouais, ça c'est la partie fictionnelle, ouais. Oui. Par contre, les histoires des imprimeurs et les arrestations, ça c'est des réalités. Et parmi toutes ces anecdotes, évidemment, il y a des choses, il y a parfois quand même pas mal de petites choses drôles, beaucoup de choses qui sont forcément dramatiques. Et moi, je pense que oui, j'avais dû le croiser tout. Je pense que c'est la chose qui m'avait marqué dès la sortie de la conférence, l'histoire du Phonoélyste. Oui. Ce journal qui est une copie d'un journal qu'on sort et qui est vendu, et enfin, je trouvais ça hyper génial. Donc, je m'étais concentrée là-dessus. On était d'accord avec Mathieu que c'était vraiment l'élément hyper important. Et terminer dessus, pour terminer sur un truc un peu joyeux, ouais. Une réussite par rapport. Ouais, on voit toutes les difficultés. Et le truc compliqué aussi, c'était de découper un peu en sandwich le côté on a une action avec un personnage, il se passe une histoire, mais il faut bien faire des inserts où on raconte le contexte de l'époque, l'histoire du papier, comment ça marche. Donc, ça, c'était des découpages. Ça fonctionne assez bien parce que c'est un peu artificiel, mais il ne faut pas qu'on perde le fil du récit. Non.
En tout cas, alors nous, je peux le dire, on ne le perd pas.
Non, cool. On ne le perd pas. Et bien, on va faire une dernière coupure musicale déjà. On rappelle quand même que nos invités sont là pour nous causer des rues de Lyon de janvier et février. On donnera toutes les infos après la coupure musicale pour vous procurer ça le plus facilement possible.
Mais oui.
À tout de suite.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, est obstiné de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et toujours la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Toujours en compagnie de nos invités au sujet des rues de Lyon du mois de janvier et février. Et là, on vient de s'écouter un titre choisi par Bastien.
Très actuel, il vient de sortir. Ouais. Vous le trouvez dans des bacs.
C'est ce que je me suis dit, je me dis un peu trop de vocodeurs par contre.
Oui,
un
oui, oui. C'est
un petit peu too much.
C'est des synthèses vocales, il faut vraiment qu'ils arrêtent.
Et donc, c'était qui?
C'était monsieur Jean Ferrat. Alors pourquoi j'ai choisi, c'est la question.
Ouais.
Ouais, ça fait un petit, déjà ça fait un petit retour aux sources. C'est que mes parents écoutaient pas mal. Puis je sais pas, ça me rappelle un peu la campagne, tout là d'où je viens. Hein, bref. Et puis ce que j'aime bien un peu plus précisément, c'est d'abord c'est pas tous les jours qu'on entend Robespierre réhabilité dans une chanson. Et puis surtout c'est le côté d'avoir enfin une chanson qui parle de, je sais pas, du pays, de la patrie, comme on dirait, qui soit pas archi réactionnaire ou montrant les gens du doigt, mais qui soit un truc qui parle à tout le monde, poétique. Et puis on a envie d'y être, quoi. Voilà, quand on écoute. Quand on écoute Jean Ferrat chanter ça, bah on sent bien, quoi. Voilà, et on n'a pas de, y a rien de rance, y a rien qui pue. Mmh. Voilà, on est bien.
Et puis le 31, on est tous dans la rue.
Et donc, n'oubliez pas. Mais...
Pardon, ça c'était moi.
Tu as raison.
Oui.
Oui. Donc là, on approche vraiment de la fin, de la fin de cette causerie en votre compagnie.
De cette première heure, il reste.
Il reste encore 3 heures.
5 heures encore.
Le marathon radiophonique. Alors, on peut déjà quand même rappeler aux auditeurs, auditrices, les rues de Lyon, vous pouvez les trouver alors, dans différentes librairies, etc, etc. Je crois qu'il y a la liste sur le site, non?
Oui, et puis c'est à peu près partout.
Alors, vous, si
une
vous
cinquantaine ou une soixantaine de librairies, ouais, lyonnaises.
On
c'est
est
ça.
Partout.
Et si vous voulez avoir la liste, je crois que vous la retrouvez sur le site de l'épicerie CC. De l'épicerie séquentielle. Oh ouais, mais alors il y a Alex, vous pouvez pas le voir, même affilé
le catalogue
avec
réactualisé,
tous les numéros. Vous allez sur épiceriesequentielle.com, vous trouvez les lieux où vous pouvez le trouver, évidemment, mais aussi pour vous abonner, c'est sur le site aussi.
Tout à fait. Et on peut aussi commander les numéros sur le site internet. On peut s'abonner et commander les numéros.
Et vous descendez. Oh là là. Ouais, faut que ça s'arrête. Hein. vous descendez de chez votre libraire de quartier et on a forcément.
Ouais. Ouais.
Faites vivre les libraires.
C'est faites bien. Vivre les libraires.
Oui.
Ils ont plein de bons conseils.
Bah, surtout
dont si, les rues de Lyon.
Voilà, surtout si vous conseillez les rues de Lyon, si vous ne les conseillez pas, bah, vous changez de librairie. C'est est-ce qu'il y a des événements, des choses comme ça, où on peut vous retrouver dans les semaines qui viennent?
Oui, tout à fait.
C'est toi.
Pas
hein,
mal. Que... c'est que moi je serai tout seul.
Moi j'avais la tête dans le guidon, moi je décide, je peux pas tout faire. Hein.
Non, du coup, effectivement, on a plusieurs choses qui arrivent. On a la chance d'être pendant un mois à partir du 20 février, pardon, à la bibliothèque Pardieu, où on aura en fait une vitrine consacrée à nos numéros et à René Leno et à pas mal de choses.
Aux deux numéros de janvier, février?
Sur l'imprimerie,
okay.
Voilà.
Okay.
Et du coup, on aura des manuscrits de René Leno, des journaux de la Résistance, Combat notamment, les poésies posthumes de René Leno, etc., etc., des planches aussi originales. Et ça, du coup, ça sera... au rez-de-chaussée de la bibliothèque dans le département langue et littérature. Donc voilà, pendant un mois on a la chance et je remercie la bibliothèque parce que au-delà de cette petite exposition, ils nous ont beaucoup aidés et ils nous ont donné l'accès au fonds René Leno qui avait été légué par son fils, et où là j'ai eu énormément de documentation. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que Alex tu veux présenter un petit peu notre conférence?
Si tu veux. Donc on est allé voir les archives aussi, j'y tenais parce que c'est là où j'ai vu la conférence des amis du musée de l'imprimerie. Donc ils nous ont mis à disposition la salle de conférence, donc on sera là-bas le mardi 22 février. À partir de
21 février,
oui. 21 février à 18h30. Donc pendant une heure, on va faire une petite table ronde pour parler de BD et de sourds documentaires, parce qu'on s'est aidé de la bibliothèque, des archives, du CHRD et du musée de l'imprimerie. Et après, il y aura une séance de dédicace avec un petit apéro. Et il y a également une expo sur les mêmes dates à peu près, du 20 février au 4 mars, je crois. Donc dans la salle de conférence, on va accrocher des planches.
Cool.
Donc voilà. Venez nous voir.
C'est bien.
Tout est gratuit.
Ouais, et ça permet de justement de rencontrer peut-être potentiellement celles et ceux que vous avez entendus ce soir, si vous y êtes. Et après, alors à côté des religions, est-ce que vous avez vous des projets individuels ou collectifs en BD ou pas d'ailleurs en fait? Est-ce qu'on peut vous suivre aussi vous individuellement sur des réseaux ou je ne sais quoi?
Oui, alors moi j'ai des BD en préparation, mais je peux pas trop en parler pour le moment. Mais j'ai un Rue de Lyon qui sort au mois de mai sur Kaamelott, voilà, c'est dit. Donc j'espère que les gens seront au rendez-vous. Et puis voilà, après vous pouvez suivre sur mes différents réseaux sociaux, Damien Martinière, Triomphe Productions, voilà, tout simplement.
Okay. Et moi j'ai dans les tuyaux des projets personnels de romans graphiques, mais je vais me réatteler assez rapidement à deux numéros des rues de Lyon, si on me laisse cette possibilité, dont un sur un petit événement qui s'est déroulé en 1789.
Ouais.
Et dont il y aura amplement. Voilà, je suis un peu devenu fou cet été, je me suis plongé comme un dingue dans les bouquins et j'en suis pas encore ressorti, tellement c'est passionnant.
Okay.
Et il faudra tout résumer en 10 pages.
C'est bien, mais sinon tu peux résumer comme Louis XVI, rien.
On a. Oui.
voilà.
Pardon.
Tu parlais de réseau où on peut te suivre. Ouais. Donc du coup, est-ce que vous voulez vous donner un peu où on peut vous trouver? Donc toi, tu disais, c'était.
Oui, moi je suis sur Instagram, Damien Martinière, vous trouverez. Okay. Voilà.
Et Instagram aussi, Bastien Castre. Instagram, Facebook, et puis j'ai un site internet. Enfin, vous tapez Bastien Castre et puis
très
vous
bien.
Trouvez. Et Alexandra.
Moi je suis sur Instagram aussi, c'est Batlexloli, BATLEXLOLI, parce que si c'est plus compliqué, qu'on peut pas me trouver, c'est mieux, bien sûr. Comme mon site internet que je dois refaire depuis 10 ans, mais ce sera 2023. Et là, je vais réattaquer.
Ouais, site internet.
certes, les marronniers. Je vais attaquer un prochain Rue de Lyon avec une collègue, Véronica Della Scala, où elle fait le scénario et je fais le dessin sur une alpiniste lyonnaise du 19e.
Oh, ok.
Ah, cool. Et donc du coup, on va juste vous le dire parce qu'on l'a pas dit. La une du numéro de janvier, elle est juste magnifique. Voilà. Donc vous pourrez pas la rater.
Merci.
J'ai pas encore vu la une de suite février. Elle est pas terminée. Mais
vous pourrez pas la rater non plus.
Voilà. Non, voilà. Et donc c'était de la lino.
C'est de la lino, hein.
Mmh. Ouais, j'ai fait la couverture et les portraits en quatrième de couverture en lino gravure.
Ah, c'est cool.
Ouais. Parce que why not?
Bah voilà.
Parce que
la BD, c'est déjà tellement long et laborieux qu'on n'a qu'à faire.
Ouais, autant rajouter. Et ben merci.
Nickel, merci à vous. Vous avez un dernier mot, un coucou,
bonjour.
On peut re-saluer Mathieu Rebière.
Oui. Enfin, le re-salue patrouille.
J'espère revenir. Qu'il nous écoute.
Ouais, non, mais le salut patrouille va revenir. Ça revient. C'est un peu le problème.
Je compte sur lui. Vous avez rien à dire.
Juste un merci.
Merci beaucoup.
Bonjour à mes parents, quand même, à ma chérie, et puis à tous ceux qui écoutent.
Voilà. Bah, tout pareil. Je sais que mes parents sont là. Ils n'écoutent pas, là, ils sont couchés.
Ça, je ne sais pas. Mais en podcast, ils
vont écouter. Le lendemain matin, ce seront les premiers.
Et ben merci à vous.
Alex,
au revoir. Merci, au revoir. Merci aux éditeurs qui sont
bientôt.
Derrière.
Et puis à tous les membres de l'épicerie séquentielle, évidemment, ouais. qui nous aident et qui font vivre tout ça.
Ah oui, moi je veux quand même saluer quand même un petit coup les camarades de l'atelier, parce que qui m'ont beaucoup aidé sur ce numéro à sublimer ce que je n'aurais jamais pu faire tout seul.
C'est aussi ça une aventure.
C'est beau.
C'est aussi ça une aventure collective finalement.
Tout
c'est arriver à s'enrichir des capacités des autres ou en tout cas des points de vue des autres, et ça enrichit toujours le travail individuel finalement. Mmh. Et le croquis-man, il veut rien nous dire. Alors non, quand même pour le
l'homme
dire.
L'homme de l'ombre,
c'est que depuis le début de l'émission, il croque.
Il fait croque. Voyage, mais sans bouger.
Mais il ne dit rien. C'est magnifique. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22-23 environ.
Oui. Et nous serons là. Ah non, pardon.
Non, mais alors, c'est avec plaisir qu'on reprend. Oula, on réinvitera pour de futurs numéros des gens de l'épicerie séquentielle, parce que c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous.
Ou de vos projets aussi individuels, n'hésitez pas.
J'allais le dire.
C'est noté.
Donc c'est bien sûr un
plaisir partagé.
Et on se quitte en musique.
Oui, et comme Alexandra voulait avoir le mot de la fin, c'est elle qui va nous expliquer pourquoi ce titre de Dead Can Dance. Bah oui, maintenant, parce qu'on revient pas après.
Bah c'est pour dire au revoir à tout le monde dans Dead Can Dance, parce que c'était dur de choisir une musique. En ce moment, j'écoute pas mal ça. J'écoutais ça il y a 20 ans. À ce moment, j'ai un gros trip de réécouter des vieux trucs qui sont encore tellement bons. Et en plus, ils allaient passer à Lyon en octobre à l'auditorium. J'étais trop heureuse. Et bon, ça a été annulé pour raison médicale ou peu importe. Ouais. Donc
c'est
une grosse tristesse. C'était l'unique fois que j'aurais pu les voir, donc bon, mais je pense à eux.
Ben voilà. Et le titre, c'est Opium.
C'est tout à fait ça.
Vous voyez pas de lien avec son état à 23h. Aucun.
Et ben, merci encore à vous.
Merci.
On invite
beaucoup.
Évidemment les auditeurs auditrices à aller feuilleter et acheter Les Rues de Lyon de janvier, février et bien avant et bien après. Et rendez-vous dimanche prochain, 22-23. Des bisous, semaine.
Salut.
Ciao.
Ciao. Like the warm rush you get from